Chapitre 7. La thermodynamique pour les nuls, partie 2. Avant de clore ce sujet, je souhaite aborder dans ce chapitre une autre application incorrecte des principes de la thermodynamique au domaine de la nutrition et de la gestion du poids. La notion même selon laquelle le fait de dépenser plus d'énergie que nous n'en absorbons, en mangeant moins et en bougeant plus, peut résoudre nos problèmes de poids et nous permettre de devenir une fois pour toutes plus minces et plus légers, se fonde en effet sur une hypothèse inexacte en lien avec les principes de la thermodynamique. Cette hypothèse est la suivante. L'énergie que nous absorbons et celle que nous dépensons ont peu d'influence l'une sur l'autre. Nous pouvons donc consciemment agir sur l'une sans que cela ait la moindre conséquence sur l'autre et vice-versa. Concrètement, cela veut dire que nous pouvons décider de manger moins, voire de nous priver plus ou moins radicalement de nourriture, en réduisant notre apport calorique, sans que cela influe le moins du monde ni sur la quantité d'énergie, de calories, que nous pourrons dépenser par la suite, ni sur notre appétit. Cela signifie que tout individu possède sans cesse la même énergie, qu'il absorbe 2500 calories par jour ou seulement la moitié, et, de la même façon, que le fait qu'un individu augmente sa dépense énergétique n'a pas d'impact sur sa sensation de faim, comprenez, ne stimule pas son appétit, ni sur la quantité d'énergie que son organisme consomme au repos. Notre instinct nous souffle que cette hypothèse est fausse, et les recherches menées depuis un siècle sur des êtres humains comme sur des animaux confirment cette intuition. En effet, les personnes qui se soumettent à une forte restriction alimentaire, ou qui y sont soumises lors d'une guerre ou d'une famine, ou encore dans le cadre de recherches scientifiques, ont non seulement faim en permanence, et je ne parle pas de la mauvaise humeur et de la dépression qui pointent vite le bout de leur nez, mais elles deviennent également moins actives et réduisent leurs dépenses d'énergie. De plus, comme leur température corporelle baisse, elles ont tendance à avoir froid en permanence. D'autre part, on ne peut nier que lorsque l'activité physique d'une personne augmente, son appétit, sa sensation de faim, augmente également. Nous l'avons entendu au chapitre 3, les bûcherons mangent davantage que les tailleurs. Enfin, bouger fatigue, et même parfois considérablement. Après s'être adonné à une activité physique, on se repose, c'est-à-dire que l'on dépense moins d'énergie. Pour résumer, l'énergie que l'on absorbe et celle que l'on dépense sont en réalité interdépendantes. Dans ce contexte, on parlerait en mathématiques de variables dépendantes et non, comme elles ont pourtant généralement été considérées, de variables indépendantes. Si l'on modifie l'une des deux, l'autre se modifie également pour compenser. Autrement dit, dans une large mesure, et peut-être même dans tous les cas, l'énergie que l'on dépense jour après jour et semaine après semaine détermine le nombre de calories que l'on absorbe, tandis que l'énergie que l'on absorbe et que l'on met à la disposition de nos cellules, c'est là un point essentiel sur lequel je reviendrai plus loin, détermine le nombre de calories que l'on dépense. Les deux phénomènes sont intimement liés, et ceux qui affirment le contraire commettent l'erreur d'appréhender un organisme vivant d'une extraordinaire complexité comme s'il ne s'agissait que d'une simple mécanique. En 2007, le doyen de la faculté de médecine de l'université de Harvard, Jeffrey Flier, et son épouse et collègue de recherche Terry Meredith Flier, tous deux spécialistes de l'obésité, publièrent dans la revue Scientific American un article intitulé « What fuels fat ?» « Ce qui alimente la graisse ». Dans cet article, il décrivait le lien étroit existant entre l'appétit et la dépense énergétique et montrait qu'il ne s'agit pas de simples variables pouvant être modifiées avec pour unique compensation une augmentation ou une diminution du volume de ses tissus adipeux. Un animal dont la quantité de nourriture se trouve soudain restreinte a tendance à réduire sa dépense énergétique, à la fois en étant moins actif et en ralentissant l'utilisation de l'énergie par ses cellules, ce qui limite sa perte de poids. Il ressent également une faim accrue, de telle sorte que lorsque la restriction alimentaire prend fin, il mange davantage qu'il ne le faisait auparavant, jusqu'à ce qu'il ait retrouvé son poids antérieur. En pas plus de deux phrases, les Flyers parviennent ici à expliquer chez l'animal l'échec d'un siècle de régime, dont le mécanisme, la limitation de l'apport alimentaire, paraît pourtant indiscutable à première vue. Et cette explication est que si l'on restreint l'apport alimentaire d'un animal, celui-ci ressent en conséquence une faim accrue et de plus se met à dépenser moins d'énergie. Son taux métabolique ralentit, ses cellules brûlent moins d'énergie parce qu'elles disposent de moins d'énergie à brûler. Puis, dès qu'il a de nouveau l'occasion de manger autant qu'il veut, il retrouve son ancien poids. C'est le même mécanisme qui s'applique chez l'être humain. D'ailleurs, j'avoue ne pas savoir pourquoi les flyers mentionnent l'animal et non l'homme, car les effets constatés au cours d'études menées sur des animaux ont également été à maintes reprises démontrés chez l'être humain. Peut-être est-ce parce qu'il ou les responsables éditoriaux de la revue ne voulaient pas qu'il apparaisse de façon trop flagrante que les sempiternelles recommandations diététiques dispensées par les médecins et les autorités de santé publique se fondent sur des conceptions erronées que « manger moins » et « ou bouger plus » n'est pas un traitement valable de l'obésité ou du surpoids et que nous devrions en prendre conscience. Et que si la stratégie « manger moins » et « ou bouger plus » peut être efficace à court terme, elle ne l'est aucunement au-delà de quelques mois, un an maximum, car notre corps finit toujours par compenser.